explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien, moi, j'y vais. Je plonge.
Le temps d'un bivouac.
De fil en aiguille, de frontière en détroit, Bourlinguer est devenu ma source d'inspiration, ma bouée de sauvetage et mon métier. Journaliste par profession, voyageur par vocation, j'ai trouvé mon équilibre dans le mouvement. Ainsi se présente Julien Blangras dans son dernier livre intitulé « Envoyé un peu spécial » paru aux éditions Stock. Avec humour, il raconte les rencontres insolites et les lieux improbables qui ont jalonné ses 10 dernières années de voyage. Sa condition de reporter à temps partiel, comme il aime à se définir, l'a plongé au cœur de situations parfois assez barrées pour lesquelles il a manifestement un faible. Au Japon, par exemple, il s'est retrouvé nu sous une cascade gelée à psalmodier des mantras. En Indonésie, dans un stage de survie, il a dormi dans un hamac à 3 mètres du sol pour éviter les varans. Et en Iran, il s'est essayé à l'escalade avec des alpinistes alcooliques. Plus qu'être dépaysé, c'est être déboussolé qui semble plaire à cet envoyé un peu spécial. L'été dernier, Julien Blangras était venu nous raconter ses étonnants voyages et nous dire comment il s'en inspire pour écrire. Cet après-midi, nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, nous retrouverons un habitué de nos bivouacs, le sociologue de l'alimentation Éric Birloez, qui nous emmènera sur les routes de l'épice la plus chère du monde, le safran. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission réalisée par Marion Lelay et Stéphanie Texier a été préparée par Sophie Vaux et Claire Tesser, avec à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Hello, welcome to Gaudé Hornos.
On est une famille de 3 personnes plus un animal de compagnie. On doit rester ici pendant un an isolé. C'est pas facile. Au début, on avait un peu peur parce qu'on n'était pas habitué à des vents si forts. La maison entière bougeait. On avait l'impression que le toit allait s'envoler. Petit à petit, on s'est habitué au vent. On sortait dehors pour sentir la force du vent. Ça s'est fait lentement et c'est bien pour nous, car on voit des choses qu'on ne reverra peut-être jamais dans notre vie.
Juan Andrés, gardien de phare au Cap Horn, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, là où se rencontrent les océans Atlantique et Pacifique. Bonjour Julien Blangras.
Bonjour.
Alors nous commençons notre voyage avec vous par un endroit par lequel vous êtes passé et qui vous a marqué.
Oui, le Cap Horn, c'est un peu un graal pour tout voyageur, pour toute personne qui aspire à parcourir les différents endroits de ce vaste monde. C'est un endroit mythique parce que voilà, à l'époque où la navigation était un peu plus compliquée, il y a quand même plein de gens qui ont péri en tentant cet exploit. Moi, j'y suis allé dans des conditions quand même beaucoup plus faciles. C'était dans le cadre d'un reportage. Donc qui nous menait en Patagonie et jusqu'au Cap Horn, mais c'était ce qu'on appelle une croisière d'expédition.
Oui.
Donc croisière, c'est-à-dire, alors c'était pas exactement la croisière, une ville flottante peuplée de retraités américains, c'était un truc un peu plus réduit, puis de temps en temps, mais bon, ça restait un truc touristique, et de temps en temps, on faisait descendre un Zodiac pour aller faire des balades dans la forêt patagone ou sur un glacier, et évidemment, le summum de ce voyage, l'aboutissement, c'était débarquer au Cap Horn. Voilà, ce qui produit sa petite émotion quand on est un voyageur.
Ça ressemble à quoi alors le Cap Horn ?
C'est un caillou pelé, battu par les vents.
Tout ça pour ça.
Ouais, mais bon, il y a quand même la dimension mythologique, voilà, qui pèse. Donc on accoste, on monte des marches glissantes et on arrive sur une espèce de plateau avec des herbes folles et un monument qui est dédié justement aux marins qui ont perdu la vie là-bas. Un monument qui est complètement défoncé parce qu'il les rafales de vent ont eu raison de lui. Et donc là-bas, il y a ce monument et il y a un phare et donc un gardien de phare.
Un gardien de phare. Alors, il change chaque année, mais il vit là avec sa famille.
Heureusement pour lui.
Ouais, c'est une situation incroyable. Il faut imaginer cet homme qui est... Alors, celui que vous avez rencontré, qui vit là avec sa femme et ses deux enfants, au milieu de nulle part, aux prises avec les éléments.
complètement isolé pendant un an, donc les rotations c'est ça, un an. Et bon, il a quand même du boulot, hein, parce qu'il faut faire les relevés météo, assurer la souveraineté chilienne, voilà. Et quand il y a un bateau qui débarque, le gardien de phare se met sur son 31, il est endimanché oui. avec son uniforme, sa belle casquette et tout. Et donc je pense qu'il est surtout content de parler à des gens.
Ouais, et d'ailleurs, il a parlé avec vous. Et cette rencontre au Cap Horn est à l'image de ce que vous aimez faire quand vous voyagez, Julien Blangras. Découvrir des lieux, découvrir des situations, découvrir des gens, et plus c'est différent, plus vous êtes dans l'autrement, dans l'autre, plus ça vous plaît.
Oui, c'est ça. Moi, si je voyage, c'est pour par curiosité, évidemment, pour aller voir ailleurs comment les gens vivent. Donc les paysages, ça peut être très émouvant, mais ce qui est plus exaltant, c'est quand même de rencontrer les gens, d'écouter leurs histoires et puis les raconter, de les transmettre. Et évidemment, c'est encore plus amusant quand on est du côté de l'inattendu, de oui. l'insolite. Alors après, il faut pas aller dans l'absurde pour l'absurde, mais j'essaye de choper dans le réel les petites choses comme ça, les petites scènes qui sont un peu cocasses, mais significatives. Oui. C'est-à-dire, à travers le détail, donner le tableau global.
Oui, et puis des fois, il y a des lieux qui se prêtent particulièrement à l'absurdité, en tout cas des situations que vous rencontrez. Exemple avec la zone frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, où vous vous êtes rendu.
Pour entrer dans la zone tampon entre les deux Corées, il faut montrer patte blanche, contrôle militaire et caméra de surveillance. Car les tensions n'ont jamais été aussi vives. Dans cette zone démilitarisée, la DMZ, les soldats du Nord sont à quelques mètres seulement de ceux du Sud et ne se lâchent pas du regard.
On est en guerre. Le conflit a été gelé dans le temps, en 1953, mais ça peut reprendre à tout moment.
Malgré les menaces terrestres, les tirs de missiles de Pyongyang, les essais nucléaires, les touristes continuent de venir à la frontière pour tenter de voir ce qui se passe en face. Les Coréens du Nord l'appellent le village de la paix. C'est en fait un village fantôme, inhabité, sauf par le son de la propagande nord-coréenne.
C'est un endroit à voir une fois dans sa vie. Peu de gens ont l'occasion de venir ici.
Extrait d'un reportage du journal de France 2, daté de décembre 2017. Julien Blangras, c'est vraiment un endroit à part, cette zone démilitarisée. Et dans votre description, là où on voit que c'est absurde, c'est que c'est à la limite de Disneyland et d'une zone de guerre.
C'est ça, c'est très particulier. C'est à la fois un point de fracture géopolitique hérité de la guerre froide. On dit zone démilitarisée, mais il y a 1 million de soldats de chaque côté. Donc c'est en fait une des zones les plus militarisées du monde. Et en même temps, c'est une attraction touristique que j'ai faite. Donc, ouais. On part du côté sud, on monte dans un bus. Alors là, c'est la caricature du tourisme canalisé. On monte dans un bus, on suit le guide avec sa petite casquette et son petit drapeau. Et pour le coup, faut vraiment pas sortir du chemin indiqué parce que on peut se faire tirer dessus.
Arrivé, ça. C'est-à-dire que c'est du tourisme ou si on sort du chemin, on peut se prendre une balle. Ça existe.
Si on franchit effectivement la ligne de démarcation à l'endroit où il ne faut pas, c'est considéré comme une agression. Donc, on risque effectivement de se faire tirer dessus par les soldats de Corée du Nord. Et donc, le point d'orgue de cette visite, c'est quand on arrive vraiment sur la ligne de démarcation, on rentre dans un petit bâtiment bleu qui était le lieu où avaient lieu les discussions de l'armistice. Donc, d'un côté du bâtiment, on est au sud, de l'autre, on est au nord. Mmh. Et donc, on rentre côté sud et on a le droit de passer la ligne. Et pendant 30 secondes ou 3 minutes, on est du côté nord. Et on vous dit, ne sortez surtout pas par la porte du côté nord, parce que sinon, vous allez vous faire tirer comme un lapin. Ouais. Donc, c'est effectivement parfaitement absurde, et en même temps quand on rentre à Paris, on peut faire le malin dans les dîners en disant oui, je suis allé en Corée du Nord.
Ouais, on peut faire le malin dans les dîners, mais ça ne s'arrête pas là, parce que au détour de cette visite touristique, de cette situation absurde, vous rencontrez un homme qui est là, qui est coréen, et puis vous lui demandez ou quelqu'un lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et ce vieil homme fond en larmes.
Il avait été séparé de sa famille des décennies plus tôt. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de familles coréennes qui, lors de la partition, ont été séparées. Donc voilà, derrière évidemment le conflit, il y a des histoires familiales tragiques.
Oui, c'est ça. Hein, derrière ce qui pourrait sembler aujourd'hui un folklore, ces deux lignes qui ne s'attaquent pas vraiment, mais avec beaucoup de militaires, il y a aussi des douleurs et des souffrances familiales incroyables.
Oui, et puis il y a parfois des escarres mouches qui font des morts de temps en temps. Oui. Donc c'est un conflit qui est gelé, mais pas complètement.
Alors ce livre est une succession de récits très brefs. Vous aimez ce format, ne pas s'apesantir, raconter une situation par une impression, une émotion, qu'elle soit, on le voit avec cet homme qui fond en larmes, des fois c'est une émotion forte et triste, des fois vous nous faites rire, mais toujours par petites touches.
Oui, bah c'est pas théorisé, mais j'ai l'impression que tous mes livres, en fait, toutes les histoires que je raconte sont des tragicomédies. Comme la vie, en fait, hein, parce qu'il y a des moments où on rit, il y a des moments où on pleure. Et voilà, il se trouve que dans ce livre, c'est par petites touches, c'est une succession d'une trentaine de chapitres qui font entre 3 et 30 pages, ouais, et qui forment un tour du monde, comme ça. Et pourquoi ce dispositif? Parce que ce livre est un... Bon, il y a des inédits, mais c'est aussi un recueil de textes que j'ai publié dans certains magazines de voyage, notamment le magazine AR, magazine voyageur, excellent, que je recommande. Mmh. Et je m'occupe de la dernière page de ce magazine, et donc c'est la carte postale. Et donc, chaque numéro, je fais quelques pages.
Ouais. Et vous avez manifestement quand même ce goût pour les rencontres insolites. Alors, on en citera quelques-unes. Un fermier zoophile qui a des rapports sexuels avec ses vaches. Il vous dit ça au détour d'une partie de billard et vous...
En Australie, oui. Ouais, et... Alors, j'ai toujours pas compris s'il se foutait de ma gueule ou s'il était sérieux. Mais j'ai vu quelque part dans le fin fond de son regard alcoolisé que cet homme ne plaisantait pas. Donc, c'était assez tétanisé. Ouais.
Ah, c'est terrible. Vous êtes invité à jouer. Alors, à plusieurs reprises des scènes dans des films, ça se passe au Nigeria et puis aussi en Inde, je crois, à plusieurs reprises.
Et oui, il faut croire que j'ai un potentiel de star de cinéma que je soupçonnais pas. Au Nigeria, bon, il se trouve que j'avais fait un reportage là-bas sur Nollywood, qui est donc l'industrie cinématographique nigériane et qui produit des milliers de films chaque année. Je crois qu'en volume, c'est la deuxième plus grosse industrie cinématographique mondiale après l'Inde, mais devant Hollywood. Et donc, c'est des livres qui souvent ne parviennent pas jusqu'en Europe, mais ça arrose tout le marché africain et puis les diasporas africaines. Un peu partout dans le monde, diaspora africaine anglophone. Et donc, c'est souvent des films qui sont faits de briques et de brocs. Et un jour, avec mon ami photographe Corentin Follen, avec qui j'ai fait ce reportage, on s'est retrouvé sur le tournage d'un film. Mais alors, vraiment, il y avait juste un réalisateur et 3 acteurs. Ils avaient un pauvre appareil photo comme ça, le matériel. Et ils improvisaient le scénario
au fur et à mesure.
Le gars disait, l'acteur disait, non, c'est tout le temps moi qui meurs, moi je veux plutôt tuer des gens. Et donc, au bout d'un moment, le réalisateur, il a vu le journaliste et le photographe français, il a dit, vous allez jouer dans mon film. Et donc, on a joué le rôle des touristes qui se font prendre en otage.
Vous avez vu le résultat ou vous n'avez pas eu cette chance?
J'ai vu des extraits du film. Bon, ouais. Je ne le recommande pas particulièrement.
Oui, j'imagine.
En vrai, je ne suis pas un très bon acteur.
Alors, vous portez un regard distancié, amusé, jamais franchement moqueur, mais toujours avec cette distance.
J'essaye d'avoir l'ironie bienveillante, pas être sarcastique. En fait, il y a une limite qui est assez fine, mais j'essaye de la respecter.
Oui, ça tient, c'est assez bien dosé. Et votre ouvrage est passé sur le grill des critiques du Masque et la Plume le 4 juillet dernier. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit à votre sujet, Julien Blangras?
Oui, je les remercie d'ailleurs, je les embrasse.
Ah oui, ils ont été dithyrambiques et unanimes, les 4 critiques. Olivia de Lamberterie a trouvé votre livre hilarant. Elle a dit, en général, je n'aime pas les récits de voyage, mais alors, elle n'aime que Nicolas Bouvier parce que c'est splendide. Et vous, Julien Blangras, parce que c'est spirituel. Arnaud Vivian vous a qualifié de très bon écrivain. N'en jetez plus, vous allez rougir. Mais manifestement, votre style plaît. Et malgré cet humour, cette façon de ne pas y toucher, ce détachement, même les critiques les plus exigeantes aiment ce style.
Tant mieux, hein. J'ai pas trop quoi répondre à ça. Ça fait plaisir. Après, moi, j'ai sorti mon premier livre en 2005. Alors, les premiers, ils ont pas eu forcément énormément d'écho, mais petit à petit, voilà, il y a peut-être de plus en plus de gens qui s'intéressent à mon travail.
C'est le voyage qui vous a conduit à l'écriture, ou c'est parce que vous cherchiez l'inspiration que vous avez voyagé?
Alors, je vais vous raconter comment j'ai écrit mon premier livre. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je venais de terminer mes études. Je travaillais au journal local à Gap, la ville dont je suis originaire, au Dauphiné libéré. Tout allait bien, j'avais mon boulot et j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire, j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que je me voyais pas 30 ans plus tard sur le même fauteuil, j'avais envie de voyager, d'élargir mes horizons. Et donc je suis parti au Mexique un peu vraiment sur un coup de tête sans savoir combien de temps j'allais rester. Je pensais rester quelques semaines. Au final, je suis resté un an. Et c'est une année, c'est mon voyage initiatique, ouais. Quoi. C'est mon voyage fondateur qui a changé ma vie parce que j'ai découvert qu'on pouvait être autonome, libre, voyager tout seul, loin de ses bases, à l'autre bout du monde et être parfaitement heureux comme ça. Et puis surtout, j'ai découvert le principe de liberté. Voyager tout seul, tu peux aller où tu veux sans demander l'avis à personne. Et ça, c'est quand même formidable. Au bout d'un moment, je suis rentré en France et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Je ne savais pas trop. J'avais quand même accumulé quelques histoires au Mexique, au Cuba, au Guatemala, aux États-Unis lors de ce voyage. J'en ai fait un roman que quelqu'un a bien voulu publier. Et voilà, ça a commencé comme ça.
C'est pour la liberté que ça offre de pouvoir voyager et ensuite raconter ou s'inspirer de ces voyages pour raconter des histoires. En fait, vous avez trouvé votre équilibre avec ce système.
Disons que c'est devenu ma source d'inspiration. En fait, après ce premier voyage, je savais que ce que je voulais faire dans la vie, c'était voyager le plus possible, avec l'ambition un peu puérile, on va dire, de visiter tous les pays du monde, mais en tout cas, essayer de quadriller le vaste monde pour le plaisir de la route, mais aussi pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Et voilà, c'est devenu ce que je fais à peu près tout le temps.
Oui, et nous aussi, c'est ce qu'on va faire avec vous, hein, quadriller la France, le monde, 5 continents au gré de vos souvenirs, de voyages et de reportages. Vous allez nous raconter dans un instant, par exemple, comment vous vous êtes retrouvé dans un stage de survie dans un hamac à 3 mètres de hauteur au milieu des varans en Indonésie. Julien Blangras nous emmène dans ses aventures d'envoyé un peu spécial, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Oukou, chanté par Dengue Fever sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
On vient d'arriver sur l'île, donc déjà, premier truc, je vais vous faire un mini brief sécurité. Check-up sécurité, donc en danger, il y a quoi? Il y a le soleil. Deuxième règle de sécu, toujours être en binôme, tout le temps, quoi que vous fassiez. Si vous vous baladez par deux, il n'y a pas de risque dans la journée, j'ai des petites pointes de lance, on fabriquera des lances. Dans l'eau, il y a des serpents, des petits serpents noirs et blancs rayés, c'est des tricots rayés. Le venin du tricot rayé, il est 40 fois plus puissant que celui du crotale diamantin. En 2 heures, c'est plié. Donc, comme il faut 3 heures pour que le bateau arrive. On survit 3 minutes sans oxygène, 3 heures sans abri, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture.
Je suis venue pour l'expérience, tester mes limites aussi.
C'est-à-dire que si t'arrives à survivre ici, après t'arrives à survivre n'importe où, quoi qu'il arrive. Bon, je me sens fatiguée. On a passé une nuit un peu compliquée. Il y a eu beaucoup de raffus autour des hamacs. Des petits rats qui couraient, ça va encore, mais les varans, les singes, moi j'ai entendu des singes, mais un peu stressant quoi.
Bon, allez, c'est bon.
Extrait d'un documentaire que vous avez réalisé, Julien Blangras. Nous étions sur une île indonésienne sur laquelle vous vous étiez rendu pour filmer un stage de survie. Et dans votre dernier livre, Envoyé un peu spécial, vous racontez les coulisses de ce tournage. C'est très drôle. C'est certainement encore plus intéressant que le reportage que j'ai pas vu, mais de savoir comment vous avez tourné tout ça. Vous avez dû payer de votre personne pour faire ce tournage.
Alors c'est vrai que les conditions étaient pas hyper simples, bon c'était pas complètement extrême non plus, mais voilà, il s'agissait d'accompagner des gens, des Français qui allaient faire ce stage de survie sur une île déserte en Indonésie, un peu en mode Koh-Lanta, sauf que c'était pas un jeu. Et on débarquait sur l'île déserte sans rien du tout, sans nourriture, sans équipement, sans eau. Ouais. Alors que c'est une île où il fait très très chaud, très très humide, et voilà, il fallait se débrouiller.
Avec une formatrice qu'on a entendue au début, hein, qui voilà, dit tout va bien, tout est sous contrôle.
Éléonore, qui était la chef scout, enfin la chef du commando entre guillemets. Et donc voilà, il y avait les varans surtout qui nous faisaient un peu flipper, parce que alors c'était pas les vrais varans de Komodo, c'est juste le modèle en dessous. Ouais. A priori, ils n'étaient pas dangereux, mais lors du stage précédent, ils avaient quand même attaqué des gens la nuit dans leur. Ils sautaient sur les hamacs, donc c'est pas très très agréable.
Ouais. Du coup, il fallait mettre le hamac très très haut, à 3 mètres de hauteur, voilà, pour pas être embêté par les varans.
Ce qui est déjà une sacrée galère. Une fois qu'on a réussi à fixer son hamac à 3 mètres de hauteur, il faut monter dessus. Donc bon, voilà, moi j'ai réussi à tomber le premier soir. Et bref, et surtout, il y avait les varans qui fouinaient sous le hamac, ce qui était quand même un petit peu flippant. Ouais. Et donc, on nous avait dit pour les faire fuir, il faut chanter. Et donc voilà, quand j'entendais les varans sous mon hamac, je me suis mis à chanter du Eddie Mitchell, ouais. Et ça les a fait fuir, ils n'ont pas demandé leur reste.
Ça a marché, et vous n'êtes pas allé jusqu'à l'arme ultime qui aurait été de chanter du Florent Pagny, dites-vous.
Ouais, j'avais peur que ça dérègle tout l'écosystème de l'île, trop violent. Ouais.
Vous avez vraiment un côté, j'allais pas dire chanteur, mais aventurier, où là vous forcez votre nature quand vous allez sur ce type de terrain, parce que là vous le dites en rigolant, mais quand même, il y avait une vraie faune sauvage avec des vrais serpents qui peuvent... tuer en 2 heures.
En vrai, le truc le plus pénible, c'était le fait de pas manger pendant 3 jours. Effectivement, ça ralentit tous les réflexes physiques. Intellectuellement aussi, on est ramolli. Et surtout, c'était la chaleur qui était plus dangereuse, je crois, que les animaux. Mais pour répondre à votre question, bon, moi, je crois que j'ai un tempérament un peu aventureux. J'aime faire des choses que j'ai jamais faites et vivre des nouveaux trucs. Je dirais pas que je suis un aventurier. Bon, on est dans le temps d'un bivouac. Moi, je suis pas sûr de savoir monter une tente comme il faut, vous voyez. Donc, je suis pas le vrai aventurier. Mais j'aime suivre des aventuriers.
Ouais, c'est ça. On vous accepte quand même. Même si vous n'arrivez pas à monter la tente, vous dormirez à la belle étoile. C'est vrai que vous aimez suivre des aventuriers particulièrement costauds, parce que vous avez, par exemple, survolé en parapente l'un des plus hauts sommets himalayens. Là, on fait pas semblant. Alors, et là, vous n'étiez pas tout seul, hein, c'était du vol en tandem.
Voilà, moi, j'étais le passager de ce vol en parapente. Donc ça, effectivement, c'était pour le coup une vraie aventure. C'était une expédition au Népal, vers la chaîne des Annapurna, qui était menée par mes cousins. Oui. Qui eux sont de vrais aventuriers, que je salue d'ailleurs ici, Jérôme et Christophe Blangras, qui sont des alpinistes et des parapentistes aguerris. Et donc l'idée de cette expédition, c'était d'aller survoler le Fishtail Machapuchare en népalais, qu'on n'a pas le droit d'escalader, car c'est la demeure de Shiva, figurez-vous, donc on ne peut pas aller déranger Shiva. Rien n'interdit de survoler la montagne sacrée, c'était donc l'objectif de cette expédition.
Ça veut dire que vous avez survolé ce sommet que personne n'a gravi à ce jour.
Alors, ça veut dire qu'on a essayé de le faire. On était 4 parapentes biplaces, il y en a 3 qui ont réussi à s'approcher du sommet, celui dans lequel j'étais n'a pas réussi à trop monter, ouais. Mais bon, on était quand même à plus de 5000 mètres d'altitude, donc c'était malgré tout des sensations fortes, et puis il y avait tout un équipement, il fallait de l'oxygène, des costumes quasiment de cosmonautes pour survivre au froid, etc.
Il y a un moment justement entre ces 4 experts du parapente où la discussion est assez technique pour savoir comment faire face aux conditions météo un peu compliquées. Et vous écrivez, dans ces moments-là, le journaliste a un rôle à jouer et il est clair, il doit fermer sa gueule, se faire oublier pour ne surtout pas influer sur les choix stratégiques. Ça paraît une boutade, mais en réalité, vous pensiez à des reportages où les journalistes ont pris trop de place et ça a eu des conséquences dramatiques.
Alors déjà, ne pas s'immiscer dans une conversation technique quand on n'a pas les compétences.
Oui, quand un journaliste ou pas, faut pas le faire.
Surtout quand là, la question est un peu vitale. C'est des histoires de sécurité assez sérieuses. Et puis oui, je pensais à l'exemple de John Krakauer dans Tragédie à l'Everest, ce titre très mal traduit de son livre Into Thin Air, qui relate une ascension tragique à l'Everest, et où il explique que le fait que lui, en tant que journaliste embarqué, sa présence a pu influer les mauvaises décisions du chef d'expédition qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes. Donc se mettre en retrait de temps en temps, c'est pas mal.
C'est-à-dire que dans ce cas précis, le chef d'expédition a voulu aller jusqu'au bout pour ne pas renoncer devant le journaliste, le reporter, et puis 8 personnes en sont mortes.
Voilà, bon, c'est une des interprétations de John Krakauer quand il est revenu sur cette histoire.
Ouais, alors là, vous vous êtes abstenu d'intervenir et d'interférer dans les décisions.
De toute façon, si je peux rajouter quelque chose, moi, je considère ma position de journaliste et de reporter comme celle d'un témoin, d'un observateur. Il ne faut pas forcément être acteur de l'histoire.
Et alors votre moteur, c'est la curiosité, le défi, peut-être aussi parfois la peur de s'ennuyer.
Ah bah oui, si on voyage, c'est en voyage tout est plus intense. La vie, c'est mieux en voyage.
Ouais.
Parce que tout est neuf. À chaque fois qu'on fait un pas, c'est une renaissance, on découvre des choses. Donc évidemment, c'est beaucoup plus palpitant que la vie sédentaire chez soi. Qui a ses avantages, mais voilà, en voyage c'est plus intense.
Ce qui fait que vous refusez rarement une proposition, quand vous recevez un message d'un rédacteur en chef qui vous dit « veux-tu partir en reportage chez les Yamabushi ?», vous répondez évidemment du tac au tac, sans avoir la moindre idée de ce dont il parle, et voilà comment vous vous êtes retrouvé dans les montagnes du Japon à suivre un processus d'initiation avec des adeptes du Shugendo.
Shugendo, je crois.
Shugendo. Ouais.
Voyage dans la nature et dans le temps, en savourant chaque halte, là devant ce cèdre vieux de 1000 ans, que l'on appelle grand-papa. Chaque pas, chaque pierre est une manière d'entrer dans l'histoire. Les pèlerins empruntent ce chemin depuis plus de 1000 ans.
Là, c'est quoi, c'est une source, là?
Ça, c'est un puits pour se rincer les mains avant de rentrer dans le temple.
Il faut toujours se purifier au Japon.
Alors pour vous, Julien Blangras, le processus de purification avec l'eau était un petit peu plus radical car vous vous êtes retrouvé nu sous une cascade d'eau glacée.
Et oui, j'ai reconnu là dans le petit son le son de la conque de mon maître Tak, qui est le maître spirituel qui m'a initié à la voie du Shugendo. Donc voilà, c'est une confrérie Shinto animiste, c'est les gardiens des montagnes sacrées au nord de Honshu, au Japon, dans la préfecture de Yamagata. Et donc le principe, c'est d'arriver pendant 3 jours. Tak donc nous explique, écoutez les gars... pour vous initier, il n'y a pas de problème, j'étais avec un photographe, mais je ne vais pas être sympa. Donc pendant 3 jours, vous n'aurez pas le droit de parler, à part pour dire « Uketamo », qui, vous aurez traduit par vous-même, signifie « j'accepte humblement avec le cœur ouvert ». Pas le droit de parler, pas le droit de se laver, on nous confisque nos montres, nos téléphones. Et donc pendant 3 jours, on est réveillé au milieu de la nuit pour aller marcher sous la pluie dans la montagne, en récitant des mantras, en s'arrêtant dans des temples pour psalmodier, comme ça. Donc l'idée, c'est de créer une sorte d'effet de transe, se mettre dans un état mental et physique un peu particulier, dans un but de purification, et donc des points d'orgue de cette initiation. Alors on a marché dans le feu, on a été dans une cabane enfumée, enfin c'était l'enfer, et on s'est retrouvé sous une cascade gelée durant laquelle sous laquelle il fallait réciter des mantras sous la pression de l'eau, à la fois nu et culotté. Voilà, on a juste une sorte de slip traditionnel, et voilà, donc c'était assez marrant et un peu raide à vivre.
C'est presque plus dur que l'île indonésienne, en fait.
Non, je crois que la chaleur est plus écrasante que le froid. Le froid, on peut trouver des moyens de se réchauffer. La chaleur, on ne peut pas y échapper.
Ouais. Alors, quel effet ça a eu sur vous, ces 3 jours d'initiation sur la voie du Shugendo?
Alors bon, là je blague un peu, mais en vrai c'était vraiment passionnant de vivre une expérience comme ça. Accessoirement, à titre personnel, ça m'a permis d'arrêter de fumer.
Mais vous y alliez pour ça ou vous êtes rendu compte ?
J'y allais pas du tout pour ça. Moi j'y allais en reportage en me disant ça va être marrant ce truc. Et il se trouve que pendant 3 jours, et évidemment comme j'avais pas le droit, on avait le droit à rien. En fait, on était privé de sommeil, de nourriture, c'était quand même assez dur. Et évidemment, on n'avait pas le droit de fumer. Et donc, comme pendant 3 jours, j'ai pas fumé, ce qui ne m'était pas arrivé depuis, je pense, 1998, je me suis dit, mais je vais continuer à ne pas fumer. Donc, merci, la voix du Shugendo.
Donc, depuis cette cascade d'eau glacée, vous n'avez pas refumé ?
Pas une latte, rien.
Eh bien, ça aura au moins servi à ça. Ça peut peut-être donner des idées aux gens qui nous écoutent. On poursuit nos déambulations à travers les 5 continents avec l'envoyé un peu spécial, Julien Blangras, dans un instant.
Caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage, dis-moi que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide, mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais.
Feu Chatterton, cristaux liquides sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Salut Mona !
Salut !
Je suis très heureuse de te retrouver ici. sur les pistes de ski iraniennes.
La majorité des Occidentaux et des gens du monde entier que je suis amenée à rencontrer, quand ils s'aperçoivent que je suis iranienne, ils sont très surpris. Ils me disent « Tu as de la neige? Tu as des montagnes? Où est-ce que tu t'entraînes ?» Je m'entraîne à une heure de Téhéran, car nous avons des montagnes de 4000 mètres d'altitude.
Mec, 4000! Et là, pas besoin de foulard, hein, le bonnet fait l'affaire. On oublie là le foulard et le voile. Hein.
Oui. Heureusement, la tenue de snowboard est une tenue internationale.
Et oui, il y a des montagnes et de la neige en Iran. Notre invité Julien Blangras peut en attester. Et la montagne, on l'a entendu, peut permettre de braver plusieurs interdits. Le voile remplacé par le bonnet, mais aussi l'eau de la gourde remplacée par des alcools en tout genre, dans un pays où l'alcool n'est en principe pas autorisé. Racontez-nous, Julien Blangras, votre initiation à l'alpinisme en Iran. Vous avez goûté à l'ivresse des cimes.
On peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvé en Iran parce que je suivais une fois de plus un aventurier. Encore une fois, mon cousin Jérôme Blangras, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un alpiniste chevronné. Et lui, il était invité là-bas pour donner une masterclass d'escalade sur glace. Et donc, il m'a dit « Tu veux venir ?» Évidemment, j'ai dit oui. Et donc, je me retrouve en Iran, un pays qui me faisait rêver depuis longtemps. Un pays absolument fabuleux, génial, surprenant. Tellement, c'est un pays qui a une réputation médiatique épouvantable. Il est au banc de la communauté internationale parce que le régime est atroce, évidemment. Mais là-bas, sur place, on découvre des gens. La plupart des gens sont absolument délicieux, merveilleux, d'une hospitalité vraiment rare. C'est souvent le cas dans les pays où il n'y a pas de tourisme, d'ailleurs, où il y a peu de tourisme. Et bref, je découvre le côté alpin de l'Iran, le côté montagnard, parce qu'ils ont plein de sommets au-dessus de 4000. Et Téhéran, qui est une ville très moche, tentaculaire, de 15 millions d'habitants, se bute sur des montagnes. Et vraiment, on est à Téhéran, on prend un téléphérique et une demi-heure plus tard, on est sur les pistes de ski avec vue sur la capitale de la République islamique d'Iran. Donc ça, c'est déjà assez surprenant. Et ce qui l'est encore plus, c'est que le guide qui nous accompagnait, on a déchaussé, on est monté en haut de la montagne, et puis là on arrive dans une petite cabane, un petit refuge, il nous sert un petit quelque chose, donc je pensais que c'était du thé ou du café, pas du tout, c'était l'agnole qu'il avait lui-même fabriqué, qui était vraiment très très forte. Il faut rappeler que c'est passible de prison, hein, la consommation d'alcool en Iran. Et donc je me suis dit, ah, c'est marrant, hein, juste un petit shot comme ça. Et en fait, le gars nous incitait à nous resservir, après au resto d'altitude pareil, bref.
À 10 heures... sous la table, il vous incite encore, il vous donne des petits verres d'alcool sous la table, discrètement, pendant le restaurant.
Et c'est-à-dire que le lendemain de mon arrivée à Téhéran, j'étais ivre mort à 10h30 du mat, avec des skis au pied, avec vue sur Téhéran. Donc c'était assez surprenant. Et effectivement, le ski là-bas, la montagne en général, c'est un espace de liberté, parce que c'est un pays. Le cliché sur l'Iran, c'est tout est interdit, rien n'est autorisé, mais tout est possible. C'est effectivement le cas, particulièrement en montagne, parce que les gardiens de la Révolution et la police des mœurs ne se cachent pas derrière les rochers, donc les amoureux peuvent être ensemble, on peut boire des coups, et voilà. Ouais, donc... et faire du ski avec les cheveux au vent.
Oui, c'est ça. Donc vraiment espace d'émancipation, la montagne. Alors, au départ, le fait que le guide soit un peu versé sur l'alcool, ça vous amuse, vous trouvez ça un peu délicieusement transgressif. Et puis, finalement, votre regard finit par devenir un peu plus triste sur cette situation.
Eh ben, il se trouve qu'en Iran, pays où l'alcool est interdit, il y a beaucoup d'alcooliques. Il y a aussi beaucoup de problèmes de toxicomanie, tout simplement parce qu'il n'y a aucune liberté, que la situation sociale n'est pas forcément facile. Donc voilà, en fait, c'est pas marrant. Il y a plus de résignation que de joie dans cet alcoolisme-là.
Vous vous êtes rendu dans d'autres dictatures. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, il y a eu 3 minutes en Corée du Nord. Hein. Vous pouvez dire que vous l'avez fait. Vous en avez fait d'autres, des dictatures, et notamment, alors je ne devrais plus appeler ce pays comme ça, le Swaziland.
Et oui, qui a été rebaptisé Iswatini sur un coup de tête de son glorieux leader, Mswati III, qui est donc le dernier monarque absolu d'Afrique, qui est doté, je crois, d'une quinzaine d'épouses et d'une flotte de voitures de luxe à peu près équivalente. Le Swaziland, c'est ce tout petit pays qui est grand comme un département français, qui est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, qui est connu pour être un des plus pauvres du monde, pour avoir le plus fort taux de prévalence du sida aussi. Alors, ça c'est des faits. En arrivant là-bas, on se rend compte que c'est pas aussi catastrophique que ça. La capitale, elle est à peu près développée. Bon, après, dans les campagnes, il y a de l'insécurité alimentaire, c'est pas génial. Mais bon, il se trouve que le bon roi Mswati III organise chaque année le Humlanga, la danse des roseaux, dont le principe est de faire venir converger toutes les jeunes vierges du royaume pour danser devant le roi. Donc c'est à la fois une tradition folklorique qui est assez impressionnante sur le plan artistique, parce qu'il y a effectivement des dizaines de milliers de danseuses qui chantent à l'unisson, c'est
vous
très beau.
Que c'est
et en même temps, voilà, c'est un peu archaïque.
Ouais, y a quelque chose d'archaïque, et en même temps, esthétiquement, vous trouvez ça très beau. Vous dites sans moquerie, sans ironie, vous trouvez ça très beau.
Parce que c'est la magie de la danse et de la musique africaine, surtout quand il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes ensemble. Bon, il se trouve qu'ils font ça pour un roi qui vole son peuple, quoi.
Alors vos textes, on le disait dans votre dernier livre, Envoyé un peu spécial, sont très courts, ciselés. C'est difficile de raconter un pays quand on a pris le parti pris de faire court et de n'aborder que par une rencontre, un petit événement, une situation. Comment dire le vrai par le petit bout de la lorgnette?
Eh ben, j'essaye de prendre le détail significatif qui donne le tableau global. Donc effectivement, il faut essayer de ciseler l'écriture. Et puis, il faut savoir capter, quand on est en reportage, l'instantané signifiant, choper la bonne formule. Voilà, c'est du travail de précision pour essayer de dire beaucoup en peu de mots.
Ouais. Vous vous considérez comme un écrivain voyageur, Julien Blangras ?
Moi, le terme me va. Je trouve que c'est un peu ronflant, écrivain voyageur. Mais bon, il se trouve que je voyage et j'écris, donc je peux pas dire le contraire.
Je vous propose d'écouter un écrivain voyageur qui lui aussi n'aimait pas trop cette dénomination, Nicolas Bouvier. Il préférait un autre terme.
Rôdeur, c'est un très bon mot parce que moi, je déteste qu'on dise grand voyageur ou explorateur. Il y a des gens qui ont voyagé mille fois plus que moi. Donc, c'est une connotation que je trouve un peu rustique. Mais rôdeur, oui. Rôdeur, flâneur. Je suis un flâneur planétaire. Je peux aller flâner un peu partout. Alors l'oreille bien tendue, la narine ouverte, l'œil bien ouvert. Et puis quelquefois, il se passe quelque chose. Très souvent, il ne se passe rien.
Des longs moments de rien.
Ah, vous savez, oui. Beaucoup de l'existence est faite de ça. Alors on cherche passionnément l'émoi, l'émotion, le contact avec l'autre. Les choses surgissent, mais il faut vraiment les souhaiter.
Nicolas Bouvier, en 1996, sur France Culture, flâneur planétaire. Ça vous irait, Julien Blangras ?
C'est génial, hein. Bon, de toute façon, c'est la figure tutélaire Nicolas Bouvier, ouais, flâneur planétaire à l'oreille tendue comme ça. Et voilà, il faut être en disponibilité quand on est en voyage. C'est-à-dire qu'on prévoit parfois des choses et il faut surtout se prévoir des moments où on ne fait rien, où on laisse le hasard venir à nous. Bouvier, avant d'être un écrivain voyageur, c'est un grand écrivain tout court.
L'idée que la plupart du temps il ne se passe rien quand on voyage, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas l'impression qu'on a quand on vous lit, parce que vous avez gardé le meilleur, le sel de tout ça.
On densifie. Oui, mais les moments où il se passe rien, en fait, il se passe quelque chose, parce qu'on mature des choses à l'intérieur, ça, toutes nos sensations infusent, on est imprégné, et au final, ça fait des phrases.
Alors, vous qui êtes allé très loin pour faire ces phrases, le voyage peut aussi être beau, avoir toutes les vertus que vous lui prêtez lorsqu'il n'est pas très loin, lorsqu'il est en France?
C'est un cliché, mais l'aventure est au coin de la rue. Le voyage, bon, évidemment, c'est la rencontre avec l'autre. Moi, j'ai la chance de vivre à Paris, une ville qui est très multiculturelle, donc il suffit peut-être de s'intéresser à son voisin et de lui demander de raconter sa vie pour voyager.
Ouais. Vous avez aussi écrit sur des moments de vie très personnels, notamment sur la paternité, sur le fait de devenir papa.
C'est aussi un voyage.
Et c'est aussi une belle aventure qui se raconte et qui mérite d'être racontée en livre.
C'est un voyage qui dure toute la vie.
Ouais. Ça se passe bien?
Très bien.
Ça permet de continuer à voyager?
Différemment. Moins de place à l'improvisation, justement. Il faut un peu plus cadrer les choses, mais c'est quand même toujours possible.
Merci, Julien Blangras.
Je rappelle
le titre de votre livre, Envoyé un peu spécial, aux éditions Stock, chaudement recommandé à l'unanimité par nos amis du Masque et la Plume. Et vous nous avez offert quelques-unes de vos photos de voyage que nous avons mises sur la page Instagram du Temps d'un Bivouac, pour celles et ceux qui voudraient voir à quoi ressemble le phare du Cap Horn, découvrir la beauté d'un vol en parapente au-dessus des sommets népalais, ou encore vous voir, Julien Blangras, aux côtés du maître japonais Yamabushi, qui vous a fait arrêter de fumer en vous plongeant sous une cascade d'eau glacée. Tout ça est à voir sur notre page Instagram. Et puis, je signale aussi que vous venez de publier un conte pour enfants dans la collection Oli. Il s'intitule « La vie secrète de Doudou Lapin ». C'est une coédition Michel Lafon, France Inter. Vous pouvez aussi écouter Julien Blangras raconter son histoire de vive voix en suivant le lien que l'on a mis sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Restez avec nous, nous n'avons pas fini de voyager. Dans un instant, Éric Birloez nous emmène sur les routes de l'épice la plus chère du monde.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons.
B qui chantait Rayon Gamma, et la programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Valentine Chédebois.
France Inter, le Temps d'un Bivouac.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Notre sociologue de l'alimentation que nous retrouvons pour partir sur les traces d'un aliment que nous connaissons mais qui a voyagé pour arriver jusqu'à nous. Et aujourd'hui, à quel aliment allons-nous nous intéresser avec vous ?
Eh bien Daniel, je voudrais bien vous entraîner avec moi sur les routes de l'or pourpre, le safran. Alors je vous invite à fermer les yeux et à imaginer. C'est le petit matin, un jour d'automne, de la brume de l'aube héberge peu à peu la terre caillouteuse et elle vous apparaît parsemée de milliers de petites fleurs mauves qui ont surgi pendant la nuit comme par enchantement. Non, c'est pas la peine de vous pincer, vous ne rêvez pas Daniel. Au loin, vous apercevez des groupes qui se hâtent pour aller récolter ces fleurs dès que la rosée sera évaporée. Et il faudra faire vite, car dans quelques heures, elles seront brûlées par la morsure du soleil. Alors cette scène que je viens de décrire, elle se déroule depuis des millénaires chaque année dans le courant du mois d'octobre. Elle est attendue avec impatience, excitation par les habitants de nombreux villages en Iran, au Cachemire, en Afghanistan et aussi à des milliers de kilomètres de là par les berbères de la région de Taliouine dans l'anti-atlas marocain, par des paysans grecs, par des cultivateurs de la Mancha en Espagne.
Mais comment ces fleurs donnent-elles le safran ?
Eh bien, ces fleurs couleur lilas appartiennent à l'espèce Crocus sativus. À la différence des crocus de nos jardins qui, eux, fleurissent au début du printemps, ces crocus à safran ont la particularité, rare dans la nature, de produire des fleurs en automne. Chacune de ces fleurs, elle possède un pistil qui est prolongé par un stigmate. Ce dernier a une couleur rouge sang et il est découpé en trois filaments d'environ 2-3 cm de long. Et ce sont ces filaments qui, après séchage, donnent le safran. Alors parfois, ils sont broyés pour être vendus sous forme de poudre. Mais là, attention, hein, les fraudes sont encore plus nombreuses qu'avec les filaments entier. Il faut dire que le safran est la denrée alimentaire la plus chère au monde, 100 fois plus chère que la truffe et même 10 fois plus chère que le caviar beluga qui est le plus cher. Aujourd'hui, le safran de France, en effet, se vend au même prix que l'or, c'est-à-dire entre 30 000, 35 000, voire 40 000 euros le kilo. Mais bon, je vous rassure, en général, on en achète plutôt un ou deux décigrammes, ce qui est suffisant pour parfumer et colorer un plat.
Mais tout de même, pourquoi un prix aussi vertigineux, Eric ?
D'abord parce que le safran est une épice très recherchée pour son goût unique, ses arômes envoûtants. Mais autrefois, les principaux usages du safran, en fait, n'étaient pas culinaires, mais médicinaux. Il était réputé redonner des forces aux malades ou après un accouchement, soulager les règles douloureuses, les gencives des bébés qui font leurs dents. On lui prêtait également des propriétés aphrodisiaques et abortives. En outre, le safran avait des usages tinctoriaux. On l'utilisait pour colorer en jaune orangé les bandelettes entourant les momies égyptiennes, les robes des moines bouddhistes, les tapis, etc. Il permettait aussi d'obtenir la couleur or, très recherché par les peintres du Moyen-Âge et de la Renaissance, comme Michel-Ange par exemple.
Mais cette demande de safran a suffi pour que son prix soit aussi prohibitif.
Ben non, bien sûr, si le safran demeure toujours aujourd'hui excessivement coûteux, c'est d'abord parce que la cueillette des fleurs ainsi que leur émondage, c'est-à-dire le prélèvement des stigmates, eh bien ce sont des opérations toujours 100% manuelles et parce qu'il faut entre 150 et 200 fleurs de crocus pour obtenir un seul gramme de safran.
Et ce crocus qui donne le safran, où et quand a-t-il été cultivé pour la première fois ?
Pendant longtemps, on a pensé qu'il était originaire d'Asie centrale. Mais aujourd'hui, les spécialistes localisent son berceau sur les terres et les îles de la Grèce. À l'origine, le safran y était récolté à l'état sauvage. Et on pense que ce sont les Minoens, cette civilisation brillante qui régnait sur la Crète et l'île de Santorin, qui ont été les premiers à cultiver le crocus à safran il y a au moins 3500 ans.
Et quand et comment le safran est-il arrivé en France ?
Il a commencé à être vraiment cultivé qu'à partir de la fin du 14e siècle. Dans plusieurs régions, le comtat venaissin, qui est l'actuel département du Vaucluse, le Quercy et le Gâtinais. Dans cette région, il y a un gros village nommé Boisnes, qui est à une centaine de kilomètres au sud de Paris et qui a été le premier à planter des bulbes de safran. À la fin du Moyen-Âge, le safran, comme les autres épices, est très convoité par les puissants. Ils en mettent dans leurs plats, à la fois pour donner du goût et de la couleur, mais avant tout pour conserver la santé, avoir une bonne vigueur sexuelle et puis pour montrer sa richesse. Le safran, à l'époque médiévale, c'était un peu comme le caviar et le Viagra d'aujourd'hui réunis. Et imaginez que ce petit bourg de Boisnes, qui compte à peine plus d'un millier d'habitants aujourd'hui, va devenir pendant 400 ans, entre le 16e et le 19e siècle, la capitale mondiale du safran, puisque c'était là qu'était fixé son cours, par des marchands qui venaient de toute la France et de toute l'Europe.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Alors, à partir de la fin du 19e, la production de safran dans le Gâtinais a commencé à sérieusement décliner. La demande ne cessait de diminuer. Et puis, deux hivers très froids, en 1880 et 1881, vont détruire énormément de bulbes de safran. Et puis ensuite, ce furent la Première Guerre mondiale, l'exode rural, l'apparition des colorants chimiques, etc. Et le dernier champ de safran du Gâtinais a disparu en 1930. Mais depuis le début des années 2000, des producteurs ont relancé la culture un peu partout en France, en particulier dans le Quercy. Et aujourd'hui, on trouve même des cultures de safran sur des toits parisiens.
Et pour finir, quelques idées d'utilisation en cuisine pour ceux qui ont les moyens de s'offrir ce safran.
Eh bien, soupe de poisson, bouillabaisse, paella, risotto à la milanaise, et puis aussi des préparations sucrées, comme par exemple la crème catalane, le riz au lait, différents types de gâteaux. Au Portugal, on confectionne des figurines en pâte à pain que l'on aromatise et colore avec du safran et que l'on décore avec du ruban de papier rouge et bleu. Les Suédois se régalent d'un gâteau au safran, le safranbröd. Dans les cornouailles anglaises, on lui préfère plutôt le safran cake. Et en Russie, un gâteau traditionnel préparé à Pâques, le kulich, est lui aussi coloré et parfumé au safran.
Merci Eric Birloez. Je précise que vous avez récemment publié « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae. Merci et à bientôt. Le temps d'un bivouac replie sa tente pour nous laisser un message. Vous avez le choix, franceinter.fr, Facebook ou notre nouvelle page Instagram. Et pour réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast, il y a toujours l'appli Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.